Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, 10h en temps universel.
Karine Bellichat.
À la une, nouvel épisode dans le bras de fer entre les États-Unis et l'Union européenne sur le commerce international. La Commission reprend l'initiative et inflige de nouvelles amendes à Meta et à Apple, quitte à fâcher à nouveau Donald Trump. On retrouve Pierre Benazet en direct de Bruxelles dès le début de ce journal. À Gaza, la trêve semble bien loin. Les frappes israéliennes meurtrières continuent sans relâche. L'aide humanitaire est bloquée depuis des semaines. En Europe, un collectif de soignants observe en solidarité une grève de la faim et tente de mobiliser. Et puis Emmanuel Macron est à Madagascar, une visite de 2 jours qui clôt son voyage dans l'océan Indien, quelque peu écourté pour assister samedi aux obsèques du pape. L'enjeu de la visite du président français est de peser face aux ambitions de la Chine et de la Russie dans la région. Valérie Gasse suit la visite pour nous. La Commission européenne a donc infligé aujourd'hui une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros à Meta. C'est le résultat d'une enquête entamée il y a un an en application du nouveau règlement européen sur les marchés numériques. On retrouve à Bruxelles Pierre Benazet pour en parler. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Les montants ne sont pas les plus importants. Les deux géants américains du numérique ont déjà écopé d'amendes plus lourdes. Mais c'est tout un symbole en pleine guerre commerciale avec les États-Unis qui dénonce les règlements européens sur le numérique.
Oui, effectivement, un symbole parce que il y a une partie qui est tangible, c'est le fait que, par exemple, en 2024, Meta a proposé aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram un choix, soit consentir à ce que toutes leurs données soient utilisées à des fins commerciales, soit payer pour ne pas avoir de publicité. Il n'y avait pas de choix intermédiaire, comme par exemple des publicités personnalisées qui utiliseraient moins de données personnelles. La Commission estime donc que c'est une infraction à ce fameux règlement européen sur les marchés numériques. Elle inflige cette amende de 100 millions, un montant relativement faible, c'est vrai, en regard de la dernière amende dont Meta a écopé, 1,2 milliard en 2023, il y a une relative indulgente. Une indulgence, c'est la première fois que ce règlement est appliqué. En outre, Meta a changé depuis 2025. De la même façon, la dernière amende infligée à Apple, c'était plus d'1,8 milliard l'an dernier, cette fois 500 millions d'euros seulement, mais parce que l'infraction continue, c'est l'App Store, il n'y a pas assez de choix pour les développeurs de l'application extérieure. Mais vous l'avez dit, le plus important, c'est le côté politique. La Commission avait retenu ses coups jusqu'ici, puisque la Maison-Blanche dénonce l'existence même de ces règlements européens, dont elle estime qu'ils sont faits, qu'ils ont été créés à l'encontre des géants de la tech américaine. Désormais, les gants sont jetés et la Commission et les États-Unis vont avoir de nouveaux contentieux à régler.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. Une décision de la Commission alors que les marchés soufflent un peu depuis ce matin après l'Asie. Les bourses européennes ont ouvert dans le vert après les propos de Donald Trump. Le président américain a annoncé une baisse conséquente des droits de douane avec la Chine. Il reconnaît que les surtaxes à 145% qu'il a lui-même imposées étaient très élevées. Soulagement des marchés, d'autant plus que Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de renvoyer le président de la Banque centrale américaine. Ses virulentes critiques contre Jerome Powell avaient une nouvelle fois fait tanguer les marchés. Il ajoute cependant qu'il souhaiterait une Fed qui soit plus active sur la baisse des taux d'intérêt. Un bras de fer qui n'est pas sans conséquences, comme l'explique l'économiste Nicolas Véran.
Ce que Trump souhaiterait voir de la part de la Banque centrale américaine, qui est la Réserve fédérale, c'est au fond que la Réserve fédérale fasse à peu près tout le temps ce que Trump voudrait qu'elle fasse. Donc il demande de la soumission et de la loyauté. Là où, évidemment, cette proposition est un peu contradictoire, c'est que tout le monde sait depuis longtemps que si on n'a pas une banque centrale indépendante, ça va éroder la confiance dans la monnaie. Et ça, c'est vrai pour le dollar, comme c'est vrai pour n'importe quelle autre monnaie. Trump ne souhaite pas, en tant que tel, détruire la confiance dans le dollar, mais il souhaite avoir un contrôle total des institutions américaines et des centres de décision américains. Et c'est pour ça qu'il critique la Fed, dès lors que la Fed ne fait pas ce qu'il voudrait en ce moment, ce qui serait une baisse des taux d'intérêt. Or, une baisse des taux, ça risque aussi de faire monter l'inflation, ce qui d'ailleurs ne serait pas populaire dans le public américain, mais ça, Trump a du mal à le comprendre.
Nicolas Véron au micro de Léonard Jochem. Des discussions au niveau des ministres des Affaires étrangères devaient se tenir aujourd'hui à Londres sur la guerre en Ukraine entre Européens, Ukrainiens et Américains. Elles n'auront pas lieu finalement, mais la délégation de Kiev pourrait tout de même rencontrer des membres de l'administration Trump dans la capitale britannique. Hier, le Kremlin avait mis en garde contre toute précipitation dans les discussions. Selon le Financial Times, Vladimir Poutine a proposé aux Américains de stopper son invasion en échange notamment d'une reconnaissance de la souveraineté russe en Crimée. La péninsule a été annexée depuis 2014. De nouveau, l'armée israélienne a frappé Gaza aujourd'hui et la défense civile palestinienne annonce un lourd bilan. Au moins 17 morts, des personnes seraient toujours sous les décombres. Une école dans la ville de Gaza a notamment été visée. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires pour l'instant. En Europe, des militants du mouvement citoyen Fin de justice pour la Palestine continuent leurs actions. Ils étaient reçus hier au Sénat français à Paris. Ils sillonnent les villes de France et seront à Bruxelles dès demain. Ce sont des soignants témoins, pour la plupart revenus de Gaza, qui ont lancé cette initiative indépendante, apolitique, laïque et transpartisane. Tous ont entamé leur 24e jour de grève de la faim pour dénoncer l'inaction et le silence face aux crimes commis par l'armée israélienne à Gaza. Alice Roussard a rencontré les fondateurs de l'initiative.
On se sent affamé de justice, assoiffé de justice.
Les traits tirés, la mine fatiguée, le docteur Pascal André a le corps affaibli et ne tient pas debout plus de quelques minutes. L'infectiologue, médecin urgentiste en grève de la faim depuis le 31 mars, précise qu'il le fait avant tout pour porter la voix des Gazaouis qui, eux, perdent du poids sans l'avoir choisi et pour forcer les décideurs à agir.
Nous sommes là face à des politiques et un gouvernement qui ne fait pas ce que dit le droit. C'est odieux. Et non seulement c'est le peuple de Gaza et de Cisjordanie, le peuple palestinien qui est en train de s'éteindre si nous ne taisons. Mais cette déclaration qui est juste à mon côté dans cet endroit du Sénat, c'est ça qui est en train de s'éteindre.
Le médecin jette un œil furtif à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen affichée dans la salle, puis marque une pause, ajoute qu'elle devrait s'appliquer à tous. Les objectifs du mouvement sont clairs, un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt de toute coopération économique et militaire avec Israël, le respect des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Leur tour de France a peu d'effet pour le moment, mais ces citoyens restent déterminés, à l'image même d'Iman, infirmière de retour de Gaza.
J'entends le dernier souffle de Habir qui s'en va, après que son bébé soit mort, pour eux que je suis là, et je continue d'espérer qu'un jour le peuple palestinien sera libre, qu'il aura obtenu réparation et justice, et ensuite on pourra parler de dialogue et de paix.
À terme, les membres espèrent surtout que ce mouvement gagnera en ampleur jusqu'à devenir une initiative européenne, et ce, conclut Iman, même s'il est déjà trop tard.
Alice Froussard. C'est la première visite d'un président français dans l'île depuis Jacques Chirac en 2005. Après Mayotte et La Réunion, Emmanuel Macron finit sa tournée dans l'océan Indien à Madagascar pour une visite de 2 jours. Au-delà des échanges bilatéraux pour développer la coopération entre les deux pays, l'enjeu est de réaffirmer à l'occasion de ce déplacement le rôle de la France dans l'océan Indien. Valérie Gasse suit cette visite.
Emmanuel Macron arrive à Madagascar avec une ambition claire, accroître l'influence française dans l'océan Indien pour continuer à développer sa stratégie Indo-Pacifique. Et il a fait valoir ses arguments avant de quitter la Réunion.
Dans la zone Indo-Pacifique, on a plus de 8000 militaires qui sont présents. Donc c'est quelque chose qu'on a anticipé, c'est quelque chose qu'on développe. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité être présent à la commission de l'océan Indien à Madagascar, où je défendrai la place de la France et de ses territoires dans les exercices conjoints, dans aussi la coopération régionale, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, éducative, climatique ou économique.
La France se présente comme un État puissance de la zone et espère donc avoir les moyens de rendre Mayotte éligible au programme de la Commission de l'océan Indien, malgré l'opposition des Comores.
Il y a en effet des désaccords que nous connaissons, mais on peut les aborder avec respect, mais surtout avec pragmatisme. Et il est normal que la France, contribuant à hauteur de 40% du financement de la COI, nous puissions avoir pour les territoires maorés de l'aide.
Les enjeux sont aussi économique. Emmanuel Macron voit l'océan Indien comme un grand marché.
C'est le marché au moins de la COI, même plus largement en fait, qu'il faut aller conquérir. Afrique de l'Est, tout océan Indien, avec des relais qui vont jusqu'à l'Inde sur certaines filières, on change de monde.
Dans sa démarche, Emmanuel Macron espère obtenir le soutien de Madagascar. Valérie Gasse, Tananarive, RFI.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une heure. Et tout de suite, c'est 8 milliards de voisins avec vous, Emmanuel Bastide. Bonjour.
Bonjour, Karine Bellichat. Et merci à vous.